Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de cette édition, les secours tentent de fixer l'incendie en cours, possiblement volontaire, qui a parcouru en moins de 24 heures au moins 1000 hectares de la forêt de Fontainebleau, malgré le déploiement au sol de 500 pompiers et l'engagement de moyens inédits. Et 26 millions de Français sont toujours concernés par la vigilance rouge à la canicule avant une décrue demain qui ne sera pas pour autant synonyme de fin de ce troisième épisode de chaleur. Au Moyen-Orient, Américains et Iraniens ont poursuivi leur attaque mutuelle. Aujourd'hui, Washington annonce avoir bombardé des dizaines de cibles quand Téhéran dit frapper des bases utilisées par les États-Unis en Jordanie, au Bahreïn et aussi au Koweït. Nous l'avons évoqué dans les titres, l'incendie en cours dans la forêt de Fontainebleau dans le sud-est de Paris n'est toujours pas fixé cet après-midi et les pompiers combattent un nouveau départ de feu dans le secteur de la Faisanderie près de la ville de Fontainebleau selon le préfet de Seine-et-Marne, Pierre Horry.
Au moment où je vous parle, le feu n'est pas... Les pompiers se battent vraiment pied à pied pour essayer de le tenir, mais ils le continue à progresser modérément. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a fait état d'une superficie globale de 800 hectares. Pour l'instant, sous réserve de vérification, on est forcément au-dessus de 800 hectares, mais on attend de le vérifier formellement pour pouvoir vous donner un chiffre fiable. Comme le ministre l'a indiqué, 800 hectares, c'est 5% de la totalité du massif de Fontainebleau. Le massif de Fontainebleau fait un peu plus de 20 000 hectares, donc vous voyez que entre 800 et peut-être 1000 hectares, c'est 5% de la totalité du massif. Donc c'est extrêmement considérable. Ça c'est pour la situation actuelle. Nous ne déplorons, au moment où je m'adresse à vous, aucune victime, ni parmi les forces de sécurité, ni parmi les pompiers, ni parmi les populations civiles. Je remercie d'ailleurs les maires qui ont fait un très gros travail depuis hier de coordination entre eux et d'aide aux populations pour les mettre à l'abri. Nous avons, avec l'aide des maires évidemment, procédé à l'évacuation d'environ 700 à 800, peut-être 900 personnes.
Pierre Horry, préfet de Seine-et-Marne. Et l'incendie qui a parcouru environ 1000 hectares, on le rappelle, pourrait avoir une origine volontaire, a affirmé ce matin sur place le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il évoque une dizaine de points de départ d'incendie. Au total, ce sont 500 pompiers qui sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Et les moyens sont conséquents. Deux avions bombardiers d'eau Canadair ont été déployés pour tenter de dompter les flammes. Et c'est la première fois que des moyens aériens sont déployés en Île-de-France pour lutter contre un feu de forêt. 26 millions de Français sont toujours concernés par la vigilance rouge à la canicule avant une décrue demain qui ne sera pas pour autant synonyme de fin de troisième coup de chaud sur la France en moins de deux mois. La sécheresse s'étend dans le pays avec 98 départements concernés par une mise sous surveillance pouvant faire l'objet de restrictions à l'usage de l'eau selon le site gouvernemental Vigio, soit un record depuis au moins 2013. Et chez nos voisins en Espagne, trois Britanniques, une Française, un Belge et un Espagnol font partie des premiers corps autopsiés identifiés après l'incendie en Andalousie dans le sud du pays qui a fait au moins 13 morts. Direction le Moyen-Orient maintenant. Américains et Iraniens ont poursuivi leur attaque mutuelle aujourd'hui. Washington annonce avoir bombardé des dizaines de cibles quand Téhéran a dit frapper des bases utilisées par les États-Unis en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Deux personnes ont été tuées dans les frappes américaines dans le sud-ouest de l'Iran, selon les agences iraniennes Fars et Tasnim. Les gardiens de la révolution iranienne ont affirmé que l'intervention militaire des États-Unis dans le très stratégique détroit d'Ormuz avait gravement mis en péril la sécurité de l'approvisionnement mondial en pétrole. Et Donald Trump a déclaré de son côté que les États-Unis seraient rémunérés pour assurer la protection du détroit d'Ormuz. Il a a également annoncé qu'ils en prenaient le contrôle. Il a aussi annoncé vouloir instaurer une taxe de 20% sur les marchandises transportées par bateau. Et Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a assuré qu'il n'y aurait aucune levée de sanctions européennes contre l'Iran tant que Téhéran n'aura pas renoncé à son programme nucléaire et ses frappes dans la région. Je vous laisse écouter Jean-Noël Barrot.
Ce régime, dont je rappelle qu'il a opprimé depuis des décennies son peuple et l'a réprimé dans le sang il y a quelques semaines au début de l'année, n'a à notre égard aucune intention bienveillante. D'ailleurs, nous avons l'année dernière encore appliqué à ce régime des sanctions extrêmement lourdes. Nous l'avons inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et il va de soi qu'il n'y aura aucune levée de sanctions sur le régime iranien tant qu'il n'aura pas renoncer à son programme nucléaire, renoncer à son projet révolutionnaire qui déstabilise sa région, renoncer à son programme de missiles balistiques dont certains pourraient un jour être en capacité de viser l'Europe, et tant qu'il n'aura pas rendu aux Iraniens la liberté de construire leur propre avenir.
Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron s'est adressé aux armées à la veille de la fête nationale du 14 juillet. La France et les Européens sont prêts à défendre la liberté et le droit au prix du sang, s'il le faut, a affirmé le chef de l'État.
En quelques années, nous aurons bâti des capacités nouvelles en Europe et orchestré un réveil stratégique. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unie. Une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre, toujours, et au prix du sang, s'il le faut.
Le chef d'État français Emmanuel Macron. Une fête nationale qui rappelle un drame, celui du 14 juillet 2016. Il y a 10 ans, l'attentat sur la promenade des Anglais à Nice coûtait la vie à 86 personnes et faisait plusieurs centaines de blessés. Guillaume Denoy de Saint-Marc, le fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme, souligne que l'État doit continuer d'aider les victimes 10 ans après cette tragédie.
Ce qu'on attend de l'État, de façon générale et en particulier pour les victimes de l'attentat de Nice, c'est vraiment une attention toute particulière portée aux victimes. C'est pas parce que le 10e anniversaire sera passé que les problèmes psychologiques, financiers, de retour à l'emploi et de travail sur la mémoire seront achevés. Et donc, il y a vraiment un besoin d'un accompagnement à long terme, qui dépasse bien sûr les 10 ans, et de façon générale pour toutes les victimes du terrorisme. On est vraiment dans un phénomène où il y a besoin d'avoir une reconnaissance réaffirmée de l'État tout au long du parcours de vie qui va suivre cet attentat. De façon plus ou moins intense, hein, suivant la proximité, suivant les dégâts psychologiques ou autres ou physiques qu'il y a pu y avoir pour les victimes. Mais oui, elles ont besoin d'un accompagnement réitéré, complet, certes de façon moins intense, mais de façon continue.
Parce qu'il y a des victimes qui peuvent s'ignorer au moment du drame et dont le traumatisme ressurgit parfois plusieurs années plus tard.
Il m'est arrivé dans ma carrière de voir des traumatismes ressurgir au bout de 20 ans. Donc oui, c'est quelque chose, on est des êtres fragiles. Et souvent, certains ont réussi à, tant bien que mal, à avancer qu'à un quart en faisant un déni sur leur état psychologique par rapport à l'attentat. Et malheureusement, ça peut les rattraper des années après. Et avec là, par contre, un choc en retour qui est une violence inouïe. Et j'ai pu le constater sur quelques victimes d'attentats très anciens.
Guillaume Denoy de Saint-Marc, fondateur de l'Association française des victimes du terrorisme, au micro de François-Xavier de Calonne. Et en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, une minute de silence sera observée demain avant la demi-finale du mondial de football entre la France et l'Espagne, selon Emmanuel Macron. Et à Paris et son agglomération, demain, un dispositif de 7000 policiers et gendarmes et 2000 sapeurs-pompiers sera déployé pour assurer la sécurité des festivités et prévenir tout débordement lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Les Bleus, qualifiés après leur victoire face au Maroc, tenteront de décrocher une troisième finale mondiale consécutive face à son rival et voisin européen, l'Espagne, avec un coup d'envoi prévu à 21h. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.